après avoir vu l'attraction de Dieu sur notre esprit, l'attraction que l'homme et la femme exercent l'un sur l'autre, après avoir vu ces deux grandes attractions, nous allons essayer de comprendre comment nous pouvons aimer l'autre en Dieu et avec Dieu. Comment unir cet amour tourné vers Dieu et cet amour tourné vers l'autre. Là, je suis conscient que le dernier enseignement était un peu comme un idéal très élevé d'une relation à Dieu, d'une union à Dieu que peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore expérimenté. Mais il me revenait ce que dit saint Thomas d'Aquin, c'est qu'il vaut mieux avancer un petit pas sur le bon chemin que de courir sur le mauvais. Je veux dire que même si ça paraît comme un but lointain, il vaut mieux se diriger vers ce but parce qu'il est le vrai but, que de se donner un but plus accessible mais qui ne serait pas le bon. Nous reviendrons sur cette question, c'est la question de l'espérance qui doit nous faire vivre. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur de désirer vivre quelque chose dont on ne se sent pas capable. Aussi parce que la grâce de Dieu est là. Et aussi parce que la manière dont nous avançons vers ce but, qui est l'union à Dieu, elle se réalise, je dirais, au-delà de ce que nous pouvons ressentir, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, comme dit Jésus, ne se laisse pas observer, mais il est comme une petite semence qui est d'abord sous la terre, qui germe, grandit et finit par se rendre visible. Donc il y en a parmi vous qui sûrement, en fait, vivent au fond de leur cœur une union à Dieu sans le savoir. Mais nous voudrions précisément réveiller en nous la conscience que, même si nous ne le sentons pas, de toute façon, notre esprit, créé à l'image de Dieu, a soif de Dieu et, en fait, chemine, quelquefois à son insu, vers ce but ultime. Alors, nous voudrions voir ce soir, comment je peux, qu'est-ce que signifie aimer l'autre en Dieu? Comment cette vie que je peux vivre donc au plus intime de moi-même avec Dieu, comment elle peut rayonner sur ma relation à l'autre? Qu'est-ce que produit l'union à Dieu? Quand notre esprit est en contact avec Dieu. Ici, je cite le psaume. Je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un petit enfant, comme un petit enfant contre sa mère. L'Écriture ne cesse de nous dire que Dieu est source d'une paix que lui seul peut donner. Cette paix que nous trouvons quand notre âme repose sur le cœur de Dieu comme un petit enfant contre sa mère. Et donc la première chose que Dieu produit en nous quand nous accueillons sa présence, c'est une paix nouvelle. Comme dit Jésus, je vous donne ma paix, non pas la paix du monde, mais la paix qui vient de Dieu. Cette paix, elle est indissociable de la joie. En fait, même si nous ne sentons pas toujours la joie, derrière la paix, il y a toujours la joie. Mais une joie qui est quelquefois tellement profonde qu'on ne la ressent pas. Parce que reposer en Dieu, ça veut dire s'y jouir de Dieu. Et cette joie, elle effleure à certains moments, mais ce que tous nous pouvons espérer et demander à Dieu, c'est de vivre d'une manière habituelle avec une paix plus intime de notre cœur, qui est en même temps une sorte de force qui nous est donnée parce que nous reposons sur ce roc qu'est Dieu.
Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience que je ne souhaite pas à qui que ce soit, qui est l'expérience du chômage. Et je l'ai vécu deux fois en 50 ans. Et la première fois, bon, c'était une surprise totale. Je dois avouer que je n'avais aucune révolte pour mon employeur, pour la personne qui m'a annoncé qu'il ne voulait plus me voir le lundi. Et je me suis posé la question, mais comment se fait-il ? Et en fait, je sentais profondément qu'il y avait cette paix intérieure, que le Seigneur restait avec moi pendant toute cette période de chômage, et que je restais dans la confiance qu'il s'occupait de moi. Et cette paix me donnait, à la maison, aussi une joie. Et je savais qu'il y avait cette force j'avais du mal à exprimer, qui était là et qui m'habitait. Et dans la deuxième partie, la deuxième fois où j'ai été au chômage, ce qui a été étonnant, c'était un mode différent, puisque j'ai voulu créer ma boîte qui n'a pas fonctionné. Et donc, je me retrouvais tout seul. Et les enfants, en fait, ont été totalement protégés par cette paix que nous avions, Hélène et moi, et que nous avons vécu dans des conditions très difficiles. Et c'était la paix du Seigneur qui était en nous. Et quelque part, on s'en est rendu compte, je dirais, après coup, avec le recul, en se disant que le Seigneur était là et nous avait permis de passer par cette épreuve. Voilà.
Moi, cette paix, je l'ai reçue le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, étant par ailleurs d'un naturel plutôt angoissé. Elle est restée comme un fond stable. Chacun a son chemin. Dieu est amour et nous reposons sur lui. Nous reposons sur un amour en lequel nous pouvons avoir une confiance totale. Mais Dieu n'est pas qu'amour, il est lumière aussi. Je voudrais surtout insister ce soir sur cet aspect-là. Dieu est lumière, et à partir du moment où mon esprit est en contact avec Dieu, il est en contact avec la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon intelligence, qui est comme un œil, mon intelligence qui est faite pour voir et pas seulement pour raisonner, mon intelligence commence à rentrer dans une lumière qui lui permet d'atteindre le réel d'une manière nouvelle, de le voir d'une manière nouvelle. En fait, c'est ce qu'on appelle traditionnellement la sagesse, de voir les choses dans la lumière, dans une lumière qui est celle de Dieu. Et encore une fois, cette sagesse, elle n'est pas réservée à une petite élite, cette sagesse, elle est donnée avec la grâce du baptême. C'est le premier don de l'Esprit-Saint qui découle de la charité. Donc personne ne peut dire qu'il soit exclu de cette lumière. Il y a une force et une lumière qui est donnée du fait même que nous avons reçu la grâce du baptême. Simplement, le problème, c'est que cette force et cette lumière restent souvent sans rayonner sur notre vie humaine et notamment sur notre vie d'amour, sur notre vie affective. Donc, je reprends. Notre esprit a besoin d'abord de se tourner vers Dieu, de regarder vers Dieu, pour ensuite voir la réalité dans la lumière de Dieu. Écoutez Benoît XVI. Quand le sens de la présence et de la réalité de Dieu se perd, tout s'aplatit et se réduit à une seule dimension. Tout est écrasé sur le plan matériel. On ne perçoit plus l'essence de ce qui nous entoure et surtout des personnes que nous rencontrons. C'est cela que nous allons essayer de voir, c'est qu'est-ce que ça change de voir l'autre en Dieu, de voir l'autre dans la lumière de Dieu. Et Benoît XVI développe cet aspect de la, de, du sens de Dieu, de la présence de Dieu, en disant, quand le, une fois le mystère de Dieu perdu, on perd également le mystère de tout ce qui existe. Et il conclut, la foi est une manière de voir la réalité, une manière de penser, une sensibilité intérieure avant d'être une croyance. La foi, ce n'est pas dans la tête. La foi, c'est une lumière qui est donnée à notre esprit, qu'elle puisse progressivement voir les choses comme Dieu les voit. Ni plus ni moins. Nous rentrons dans la sagesse divine. Là aussi, le plus souvent à notre insu. Il y a des lumières qui nous sont données sur les situations, sur les personnes.
Exemple, moi j'avais beaucoup de mal avec ma belle-mère, des relations qui étaient très difficiles, et récemment il m'a été donné, c'est vrai, dans la prière, par le contact avec Dieu, de voir ma belle-mère d'une autre façon, en fait, de la voir comme une personne blessée, parce qu'en fait j'ai vu dans la prière, j'ai vu toute son agressivité, en fait c'était dû parce que c'était une personne blessée. Et du coup, de comprendre ça, la lumière de Dieu, ça me permet d'avoir d'abord de prier pour elle et d'avoir des relations beaucoup plus apaisées avec elle. Et de l'aimer, en fait, maintenant, alors que vraiment j'avais du mal.
Pour essayer de mieux comprendre la manière dont cette lumière que Dieu met au fond de notre cœur peut changer la relation à l'autre, je voudrais revenir sur la question de la manière dont l'amour peut naître en nous. Nous avons dit tout au début que l'amour, c'est une question d'attraction. Il faut qu'il y ait un bien, qu'il y ait un pouvoir d'attraction qui s'exerce sur moi. Mais à quelles conditions ce bien, quel autre, peut exercer son pouvoir d'attraction? Mais dans la mesure où je le connais. J'aime bien prendre l'image des femmes voilées. Qui, d'entre nous, et tomber amoureux d'une femme entièrement voilée. Le voile est fait pour ça, hein, pour empêcher l'attraction de s'exercer. Je pense souvent que le grand voilé, c'est Dieu. Son attraction ne s'exerce pas parce qu'il est méconnu, voilé par tous les mensonges de ce monde, et surtout d'abord par le prince des ténèbres. Cesse de défigurer son visage. Ce qui est sûr, c'est que la manière dont je vois, dont j'aime l'autre, dépend de la manière dont je le vois. On aime comme on voit. Si on voit mal, on aime mal. Écoutez Jésus, si donc ton œil est saint, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. L'amour, c'est aussi une question de connaissance. Souvent, on n'a pas conscience qu'on voit mal, on reste bloqué sur une certaine perception qui reste à un niveau psychique, disons, bloqué sur ce qui nous énerve dans la personnalité de l'autre et plus particulièrement dans des relations qui sont des relations familiales, affectives. On n'arrive pas à dépasser un certain degré de connaissance, si je puis dire. Donc c'est évident que là aussi, vous le devinez, c'est un long chemin par lequel on va pouvoir laisser la lumière divine changer en profondeur le regard que j'ai sur l'autre pour pouvoir changer en profondeur ma manière de l'aimer.
Oui, alors nous on a un petit peu expérimenté tout cela dans notre vie concrète de couple, parce que quand on s'est marié, on est parti à l'étranger et on habitait New York et on était étudiant, et en fait bien qu'on se soit marié à l'église, en fait dès les premiers mois de notre mariage on était très occupés, enfin bref on a oublié Dieu, et on a vécu les premières années de notre mariage, il y a 3 ans à New York ou 4 ans, et puis 2 ans à Singapour sans Dieu. c'est-à-dire qu'on n'allait même pas à la messe, on ne savait même pas où était la paroisse française, il ne faisait plus partie de notre vie. Et après, on est allé à Londres, et c'est à Londres qu'en fait, on m'a été invité à des week-ends d'amour et vérité, et on a vécu une très très forte conversion. Et donc les premières années de notre mariage, mais j'ai eu l'impression quand même, à un moment donné, quand on est arrivé en Angleterre, de me buter contre un mur et que bon, notre amour humain était limité. Je sais pas, il y avait quelque chose qui n'avançait plus, alors que, humainement, c'était un peu bloqué. Et quand on s'est converti, j'ai véritablement eu l'impression comme un souffle nouveau et un amour nouveau qui nous était donné, parce que, justement, comme tu dis, je crois, il y avait, à la lumière de Dieu, on voit plus loin, on peut aimer l'autre plus loin et plus profondément, et vivre un amour nouveau, avec un souffle nouveau.
Qu'est-ce que je vois en l'autre quand je suis moi-même en contact avec Dieu, au fond de mon esprit? Mais dans la mesure même où je suis effectivement en contact avec Dieu, je perçois l'autre pour ce qu'il est dans sa relation à Dieu, pour ce qu'il est, je dirais, dans le regard de Dieu, c'est-à-dire, je le perçois lui-même comme un esprit incarné, fait pour Dieu. Autrement dit, je perçois, comme le rappelait Benoît XVI, je perçois l'image de Dieu en lui. Je le vois comme une personne créée par Dieu et pour Dieu, avec cette dignité donc d'un être à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Ce n'est pas simplement, vous voyez, une conviction intellectuelle, mais c'est dans la mesure où je deviens sensible à Dieu, sensible au divin, je deviens aussi sensible à ce qui est à l'image de Dieu en l'autre. Je perçois quelque chose de sa transcendance, au lieu de m'arrêter à sa personnalité psychologique. Je précise tout de suite que voir l'autre, non pas selon les apparences, mais selon ce qu'il y a de plus profond en lui, c'est-à-dire son esprit, ça ne signifie pas voir tout en rose. Parce que aussi, dans la mesure où je vois l'autre dans une lumière plus, je dirais, plus vive, hein, qui me fait voir au-delà des apparences, je vois à la fois sa vraie beauté. Rappelez-vous la première lecture de ce dimanche, de dimanche dernier, « Tromperie que la grâce, vanité la beauté, la femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'il faut féliciter. » Je ne m'adresse pas aux apparences physiques ou psychiques, mais je vois donc ce qu'il y a de plus intime et de plus précieux en l'autre, mais ça veut dire aussi que je vois aussi ce qui défigure cette image de Dieu en l'autre, c'est-à-dire je vois le péché profond, si je puis dire, là où il y a péché. Je deviens sensible, d'une sensibilité, je dirais, qui me permet de rejoindre ce qui est caché dans le cœur de l'autre. À la fois la vraie beauté et, on peut dire, aussi la vraie laideur. Je le connais donc dans ce qu'il y a en lui de plus réel, j'ai envie de dire, de plus fort, c'est-à-dire l'esprit. Et donc je vais ressentir une attraction à partir de cette connaissance, là où il y a affinité d'esprit à esprit, il y a l'attraction la plus forte. Il n'y a rien de plus fort que les affinités spirituelles, qui sont à la source des amitiés spirituelles, comme on dit traditionnellement. les affinités d'âme, mais au sens profond du terme. Il y a quelque chose, en même temps, vous voyez, dans cette perception de ce qu'il y a de plus profond en l'autre, qui fait que cet amour ne va pas être soumis aux variations du physique et du psychique. Ici, je voudrais donner un témoignage qui m'a vivement frappé, celui d'un ami d'enfance qui a épousé une femme avec beaucoup de charme. Et cette femme a eu un accident de voiture qui fait qu'elle s'est retrouvée en chaise roulante, paralysée jusqu'à la poitrine. Les bras paralysés aussi, enfin, elle est dans son fauteuil, elle arrive à bouger avec une petite cuillère sur un petit écran de telle manière à pouvoir se déplacer. A priori, c'est pour la vie, à 40 ans, 4 enfants. Quand il m'a appris l'accident de son épouse, mon ami, j'appréhendais la rencontre avec cette femme. Je suis allé la voir aux Invalides et je lui ai porté la communion. Il y a un changement d'état physique tel que j'étais quand même un peu sous le choc. Quand je suis sorti de la chambre, j'ai rencontré mon ami. Il m'a dit une simplicité, il m'a dit, tu sais, ce matin j'ai regardé les photos du mariage et je me suis dit, mais elle est beaucoup plus belle maintenant. C'est ça que ça change, le contact avec Dieu. De fait, elle était beaucoup plus belle parce qu'il y avait beaucoup plus de lumière dans son cœur. Qui était beaucoup plus sans Dieu. Vous devinez que, à partir du moment où la perception de l'autre progressivement s'enracine à cette profondeur, bah, il peut avoir toutes sortes de fragilités psychiques ou physiques. Ça ne peut pas changer en profondeur l'amour que j'ai pour lui, parce que cet amour naît d'une attraction qui dépasse l'attraction physique ou psychique. Et qui, encore une fois, est plus forte que l'attraction physique ou psychique. Je dirais que dans cette attraction, ce n'est pas les qualités de l'autre, ce qu'il peut m'apporter, humainement d'abord, qui m'attire vers lui, mais c'est sa personne elle-même. En tant qu'elle transcende, j'allais dire, le temps lui-même, transcende l'évolution du caractère, de ce qu'elle a d'ineffable, de ce qui restera toujours, de ce en quoi elle est unique. Sa personne elle-même qui m'est donnée progressivement d'entrer en contact, et qui fait que je peux aimer à ce moment-là vraiment l'autre pour lui-même, pour ce qu'il est, et non pas simplement pour ce qu'il a comme qualité ou pour ce qu'il peut m'apporter. Je ne dis pas que ce qu'est l'autre et ce qu'il a n'est pas important aussi, évidemment. Mais les qualités de l'autre, la manière dont il peut me rendre service, m'être utile, tout ça est relativisé par rapport à une attraction qui le dépasse. Je rajouterai qu'un tel amour qui naît d'une telle profondeur d'attraction ne prête pas à la possession. Parce que la personne même de l'autre, je ne peux pas la posséder. Ce que je perçois est ineffable et ne se laisse pas saisir d'aucune manière. C'est l'autre dans son mystère. Et la joie que je peux vivre dans cette relation est la joie du contact de personne à personne. cœur à cœur, d'âme à âme. Vous lirez dans les feuilles un passage de Benoît XVI disant qu'on peut connaître l'autre selon la chair, comme dit saint Paul. Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Ou alors, on peut le connaître avec le cœur, comme il dit. Connaître de cette manière essentiellement la personne dans sa vérité et non pas connaître des choses sur lui.
Connaître l'autre, moi je le vois quelquefois en sens inverse, où bon, Hélène de temps en temps m'énerve. Ça a l'air de vous surprendre. Ouais, ça a l'air de vous surprendre. Donc elle m'énerve et je me dis, quand ça arrive, et je trouve que c'est un très bon remède en fait, c'est comment est-ce que, quel regard Jésus porterait sur elle à ce moment-là. Et en fait, il y a du combat. Parce que d'abord, il faut que je me le dise, juste à ce moment-là, mais ça aide. Et puis, après ce combat, j'arrive à une situation où j'ai une sorte de paix intérieure qui vient en moi, et du coup, l'agacement passe. Et ça me permet de penser à autre chose. Donc, un petit remède comme ça.
Oui, c'est ça, il s'agit de rentrer, en définitive, ce regard du cœur, ce regard de la sagesse du cœur, qui me fait voir l'autre dans ce qu'il est essentiellement, devant Dieu, participer au regard de Dieu. Progressivement, je vois les choses comme Dieu les voit, sans avoir peur de le dire. Saint Paul dit explicitement à un moment, nous avons, nous, la pensée du Christ. Et donc, le fait de se poser la question, comment Jésus voit l'autre, est une bonne question, qu'il met sur la route. Mais évidemment, la réponse n'est donnée que au fur et à mesure que mon esprit se tourne vraiment vers le Christ, se tourne vraiment vers Dieu pour recevoir de lui cette lumière.
Oui, moi quand Jérôme m'agace aussi, bien, en fait je tourne aussi vers Dieu et si je vais prier, je constate qu'effectivement les petites choses qui m'agaçaient sont minimes en fait et que c'est en Dieu, c'est lui qui me donne un regard positif en fait sur Jérôme et j'arrive à voir finalement les qualités qui sont plus importantes à voir que les défauts. Et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais sur le cœur à cœur qu'on peut avoir entre époux. C'est un long chemin, ça paraît difficile en fait, mais je pense qu'on peut le ressentir, nous on l'a ressenti surtout quand on était par exemple, quand on est en retraite, quand on a fait un voyage en Terre Sainte, il y a des moments dans notre vie de couple très précieux où on peut sentir vraiment en Dieu ce cœur à cœur. Et c'est particulièrement, je dirais, pour nous, on l'a senti véritablement quand on était dans des lieux spirituels. C'est pas tous les jours qu'on ressent ce cœur à cœur et tout le temps. C'est vraiment dans des moments spéciaux qui sont donnés à certains moments. C'est des moments très très précieux pour une vie de couple sur lesquels après on peut en fait véritablement s'appuyer. En se disant, oui, en y repensant, en y revenant.
Donc, c'est ça le but. C'est une communion spirituelle qui intègre la communion psychique et l'union physique, qui peut intégrer, comme on le montrera par la suite. Je vous cite le catéchisme. L'amour conjugal comporte une totalité où entrent toutes les composantes de la personne. L'appel du corps et de l'instinct, la force du sentiment et de l'affectivité, l'aspiration de l'esprit et de la volonté. Il vise une unité profondément personnelle, celle qui, au-delà de l'union en une seule chair, conduit à ne faire qu'un cœur et qu'une âme. Au-delà de l'union en une seule chair, on peut le comprendre au sens où la Bible entend la chair, c'est-à-dire au sens au-delà d'une union physique et psychique. au-delà d'une communion psychique qui fait qu'on s'entend bien humainement, il y a la possibilité de ne faire qu'un cœur et qu'une âme. En tout cas, c'est ça le but. Ce qu'un cœur et qu'une âme suppose que, quelque part, je perçoive le cœur de l'autre, je perçoive son âme. Vous savez, il y a des saints dont on disait qu'ils lisaient dans les âmes, mais en fait, c'est simplement qu'ils avaient cette perception de ce que l'autre est profondément, au-delà des apparences, en fait, de le voir dans cette lumière qui nous est donnée quand donc, notre esprit est tourné vers Dieu. Donc on peut dire que Jésus est venu instaurer une nouvelle communion, non seulement avec Dieu, en nous révélant le visage de Dieu, mais aussi en nous révélant le vrai visage de nos frères. Et que dans le mariage, une grâce particulière est donnée aux époux pour cheminer vers cette vraie communion. Écoutez Saint Jean, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. Donc, qu'est-ce que fait Saint Jean? Il expose Dieu, le mystère de Dieu, qu'il a connu pour le faire connaître. De telle manière que ceux qui accueillent la bonne nouvelle de Dieu puissent, en connaissant Dieu, rentrer dans une communion nouvelle, afin que vous soyez en communion avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il y ait communion, il faut que les deux soient en phase. C'est-à-dire que les deux se voient et s'aiment en Dieu. Que les deux se rejoignent à cette profondeur que Dieu nous donne de vivre, profondeur d'amour, qui fait qu'il y a contact de cœur à cœur, d'âme à âme. Et c'est la raison pour laquelle la communion spirituelle, c'est le fruit mûr d'un chemin, mais elle n'est pas toujours expérimentée parce qu'il faut que les deux soient éveillés à cet amour nouveau. Je ne veux pas vous tromper sur la marchandise, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est un long chemin qui fait que l'homme et la femme peuvent vraiment jouir de cette communion profonde des personnes, l'une avec l'autre. Mais distinguons deux choses. Personnellement, je peux voir l'autre en Dieu, même si lui ne me voit pas en Dieu. Je peux l'aimer en Dieu, même si lui ne m'aime pas en Dieu. Je peux être attiré par sa personne, même si l'autre, actuellement, reste comme aveuglé et ne s'arrête à mon caractère et reste dans son énervement et sa vision aplatie, comme dirait Benoît XVI, des choses. Et si je l'aime dans cette lumière, c'est avec l'espérance, évidemment, que lui-même puisse me rejoindre dans cet amour spirituel qui naît de la contemplation, de la perception de la personne, et puisse que je puisse vivre avec lui cette vraie communion des enfants de Dieu en Dieu, qui est comme une anticipation de la joie du ciel. L'Église enseigne que, en définitive, le mariage, quand il parvient à cette union des cœurs et des âmes en Dieu, est comme une anticipation du festin de la joie du royaume qui nous attend, le festin des noces de l'agneau. C'est ça le bonheur plénier du mariage. Oui.
Donc, c'est un message d'espérance extraordinaire que le mariage, on entend dire, c'est bien au début, c'est tout le temps, mais puis après. Et là, ce que Louis essaye de nous démontrer, c'est que c'est l'inverse. C'est, il peut y avoir des sangliers, il veut nous faire monter très haut, et c'est pas simplement au ciel. Déjà, sur cette terre, on peut vivre et revivre à chaque étape d'approfondissement de notre vie spirituelle. Plus nous arrivons à descendre au profond de notre cœur, plus nous avons une joie extraordinaire à tous les niveaux. Pas uniquement au niveau du cœur, mais aussi à tous les niveaux, et même dans l'union sexuelle. On a souvent les plus belles unions au moment des retraites. Et donc il y a quelque chose de très chouette, parce que c'est pas, c'était tout beau au départ, et puis après, non, un peu le langage du monde, alors il faut reprendre un deuxième pour essayer d'aller un troisième ou un quatrième, alors que le fait de descendre en Dieu est un chemin d'expérience extraordinaire, où on nous promet vraiment quelque chose qui va aller croissant. Donc c'est chouette, vous ne trouvez pas ?
Cette communion spirituelle que j'essaye de dessiner n'est pas réservée au mariage, évidemment. Et en entendant Anne-Claire, il me revient que moi-même, j'ai eu la grâce de connaître une personne âgée, une femme âgée, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune prêtre. Et je crois qu'elle a eu la grâce tout de suite de me voir en Dieu. Et c'est avec toujours l'émotion que je pense à la manière dont elle m'a appris à aimer en Dieu. C'est-à-dire, quand on est en contact avec quelqu'un qui nous voit et nous regarde quelque part avec le regard de Dieu, sans jamais nous juger, parce qu'il ne s'arrête pas à nos blessures, à notre personnalité psychologique, mais qui voit toujours plus loin, donc il y a en même temps une capacité de pardon inépuisable quelque part, c'est extrêmement purifiant. On ne peut pas être aimé d'un amour qui vient de Dieu sans être touché. Donc je vous disais au départ que la communion spirituelle, elle suppose que l'un et l'autre soient en Dieu quelque part. Parce que comme dit Benoît XVI, pour qu'il y ait communion, il faut qu'il y ait quelque chose de commun, il y a un fond commun. On se retrouve en Dieu, on reparlera de ça. Donc c'est vrai que la joie de la communion des personnes, on ne la vit pas et tout de suite. On peut avoir la joie de l'aimer en Dieu, mais la joie de sentir qu'on est vraiment, comme on dit, en phase spirituellement, qu'on se rejoint vraiment en Dieu, ça c'est un fruit mûr. Mais en attendant, quand je regarde l'autre et que je l'aime avec à la fois le regard et les sentiments de Dieu, parce que le voyant comme Dieu le voit, je finis par l'aimer comme Dieu l'aime, eh bien, de fait, ça ne peut pas ne pas transformer quelque part l'autre, même à son insu. En ce sens-là, saint Paul dit, une femme a-t-elle un mari non-croyant qui consente à cohabiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari? En effet, le mari se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non-croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant. L'amour, quand il est purifiant. Et il élève l'autre, qui finit par se regarder lui-même comme l'autre le regarde. Ne pas rester enfermé dans sa misère, dans sa faiblesse. J'ai envie de dire que quand on voit l'autre d'en haut, du haut de Dieu, on l'élève. On lui révèle ce qu'il est vraiment. Et on lui apprend à s'accepter lui-même en même temps tel qu'il est, à ne pas se juger, se culpabiliser. Je dis cela donc avec m'appuyant sur l'expérience des saints et aussi l'enseignement du magistère, hein. Notamment Benoît XVI qui insiste sur le fait, hein, je l'ai dit là, il dit le grand problème à notre époque, hein, dans lequel chacun, en voulant avoir sa vie pour soi, la perd parce qu'il s'isole et isole l'autre de lui, et de retrouver la profonde communion, qui, à la fin, ne peut venir que d'un fond commun à toutes les âmes, de la présence divine qui nous unit tous. Il ne faut pas confondre ce chemin qui, donc, nous permet de vivre cette union des cœurs et des âmes avec le fait, si vous le voulez, d'avoir la même sensibilité spirituelle, de marcher ensemble sur le même chemin spirituel. On reparlera de ça quand on verra la complémentarité entre l'homme et la femme. C'est évident que expérimenter la communion des personnes en Dieu, ça ne veut pas dire prier de la même manière, ni avoir la même, le même chemin vers Dieu. Et là, pour certains couples, il y a un deuil à faire, parce qu'on voudrait tellement que l'autre soit toujours à côté, en même temps que nous, pour nous entraîner, pour nous aider sur le chemin où on est. Mais en fait, on peut s'aider à avancer tout en étant sur des chemins différents. Tu confirmes?
Mais c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un peu quelque chose de difficile. Pendant longtemps, je ne sais pas comment dire les choses. J'ai l'impression que ma femme était plus avancée que moi spirituellement, donc j'étais toujours en retard à galérer derrière. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il fallait faire sa trace tout seul et puis voilà, qu'il n'y avait pas de confusion à rechercher entre son chemin et le mien. Voilà, et donc c'est vraiment un deuil. Je reprends le terme, je trouve qu'il est tout à fait adapté. En tout cas, moi, bon, c'était mon cas.
Pas que j'étais plus avancée, c'était son illusion à lui. Je confirme que c'était difficile de se comprendre dans la discussion. Donc souvent, la prière de couple remettait les choses en place. C'est-à-dire que c'est pas forcément... moi, personnellement, je suis convaincue que c'est pas dans le discours. Que si j'avais essayé de le persuader de quoi que ce soit, j'aurais fait plus de casse qu'autre chose.
Moi, le Seigneur m'a donné d'expérimenter, et j'expérimente toujours, une communion spirituelle avec cette personne âgée qui m'a beaucoup aidé dans mes premières années de sacerdoce à avancer sur le chemin de la plus grande maturité humaine. Et ce qui me semble important de souligner, c'est que l'unité de l'esprit, l'unité des âmes, l'unité des cœurs, signifie pas non plus qu'on ressente les choses de la même manière en raison de la différence des sensibilités, même des sensibilités spirituelles. Mais il y a vraiment une unité de fond. Une unité de fond qui fait que profondément, on voit la même chose et on veut la même chose. Profondément. Mais on a des manières différentes de les comprendre, de les exprimer, et c'est là qu'il se mêle la différence, notamment entre l'homme et la femme. Mais on sent qu'il y a vraiment un fond commun. Dont Saint Paul parle quand il dit qu'il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Et sur cette base d'une unité de fond d'esprit, au sens le plus profond du terme, de fait, il y a place pour le dialogue. On essaye de se comprendre humainement, passer des heures à essayer de se comprendre, je dirais, avec les mots, mais on peut faire ce chemin de compréhension parce qu'on sait qu'il y a un fond commun. Vous confirmez ?
Oui, c'est vrai que, finalement, je parlais de tout à l'heure, et dans un deuxième temps, effectivement, quand on essaie de se comprendre, finalement, la différence qu'il y a entre les deux peut même être une forme de chemin qui permet d'avancer, parce que justement, ça donne un autre regard sur Dieu, sur la vie spirituelle, sur tout un tas de choses, et finalement, ça nous aide à grandir plutôt que d'être dans une espèce d'imitation qui est stérile.
Dans un amour fusionnel qui se situe au niveau psychique, on recherche une union psychique. Il n'y a pas vraiment de place pour l'unité dans la diversité. Mais on cherche à être le plus semblable l'un à l'autre. À être toujours plus proche, mais dans un sens trop humain, alors que quand on jouit de cette union de fond, on n'a pas peur de la différence.
Oui, je pense qu'il y a une réelle richesse dans notre complémentarité. Et si on vit de cette espérance que demain est un jour nouveau, comme disait Anne-Claire, c'est absolument extraordinaire parce que si, voilà tout ce que j'ai déjà vécu hier et voilà ce qui est devant moi. Donc ça donne un souffle nouveau en permanence en fait. C'est quand même génial.
Je rajouterais que la personne de l'autre, elle est ineffable. Elle restera toujours un mystère, quelque chose que je ne peux pas saisir. Donc, quelque part, je suis amené à la voir à nouveau, à la découvrir à nouveau. Et il y aura toujours, je dirais, un accent de nouveauté dans cette découverte de l'autre comme personne. Je rajoute que ce n'est pas... Pour que ce soit, je dirais, une vision permanente, ça supposerait que je sois constamment dans la vision de Dieu. Donc c'est évident que cette perception de l'autre comme personne en profondeur, elle a toujours des hauts et des bas. Hein. Bon, on se laisse reprendre par voir l'autre, comme dit saint Paul, selon la chair. C'est-à-dire le voir avec les yeux de mon psychisme, au niveau mental. Hein, et un niveau simplement d'une réaction affective, d'une vision. Mais à partir du moment où on a eu ne serait-ce qu'un bref instant, la connaissance, la perception de l'autre dans ce qu'il y a dans sa beauté profonde et irréductible, inaltérable, il y a quelque chose qui fait qu'on va se mettre en route pour retrouver cette connaissance de l'autre.
Au bout de 3 ans de mariage à peu près, après une longue séparation, à l'époque on était beaucoup séparés par le métier, et après une longue séparation, j'ai le souvenir dans le couloir de l'appartement à Cherbourg, où j'étais exactement, je me souviens exactement où ça s'est passé, quand Philippe est rentré de ce long départ, en le regardant, dans son regard, j'ai vu vraiment quelque chose de, pour moi, qui était extraordinaire. Le regard de mon père avait été toujours très blessant. Donc là, j'ai vu quelque chose de très profond, Et bon, à l'époque, je n'aurais pas dit que j'ai vu le cœur profond de Philippe. Maintenant, j'en suis sûre. À l'époque, je me suis simplement dit, il y a quelque chose d'extraordinaire en lui. Et après, à chaque fois que j'avais des difficultés, je me ressouvenais intérieurement de ça, en me disant, bon, relativisons, j'ai vu qu'il y a quelque chose de bien derrière. Et une phrase de la parole de Dieu qui m'a beaucoup portée, c'est « Souviens-toi de la ferveur de ton premier amour ». Je me dis ça à chaque fois, même encore maintenant, quand je suis une mauvaise poêle. Et intérieurement, je me dis « Souviens-toi de la ferveur de ton premier amour ». Et j'ai toujours le déclic sur ce que j'ai vu à ce moment-là. Et je pense que tous, à un moment ou à un autre, on a vu quand même. On a été regardé différemment, on a vu quelque chose du cœur de l'autre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Autrement, ça, c'est pas mal.
Le Seigneur, il nous donne ce qu'on appelle des grâces ponctuelles pour nous allécher. Mais pour que ça devienne un état permanent, il y a toute une purification très profonde qui est requise. Rappelez-vous, c'est la cinquième béatitude. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc, c'est évident, on en reparlera, mais la vision de Dieu dépend de la purification du cœur. La purification du cœur, elle ne se fait pas en une retraite ou en un moment privilégié de prière. Mais le Seigneur nous donne par grâce de le voir à certains moments et de voir l'autre en lui, de telle manière que nous sachions qu'il y a une autre manière d'aimer et une autre manière de voir l'autre. Et après, il faut tenir le cap. Parce qu'on on est fort de la force de l'espérance, c'est-à-dire d'un désir, d'une réalité que Dieu nous a fait pressentir et vers laquelle, pour laquelle il vaut la peine de peiner, pour laquelle il vaut la peine de persévérer. Et je vous rappelle, dans les noces de Cana, le vin le meilleur se boit à la fin. Donc il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. Il ne faut pas s'imaginer que le but, c'est de revivre, je dirais, l'amour romantique et enthousiaste des premières années. Mais le but, c'est d'avancer dans les profondeurs de la connaissance et de cette communion des personnes qui est rendue possible dans la lumière de Dieu.
Un plus grand bonheur. Cette profondeur donne une joie plus grande que celle du départ. Donc ça vaut le coup.